présence et nous allons lire un texte, un beau texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 12e. Épître aux Romains, chapitre 8 et le verset 12. Voilà, nous allons voir un thème ce matin qui est important dans les Écritures. C'est notre espérance en Jésus-Christ. Nous allons comprendre ce que ça veut dire, eh bien, pourquoi nous avons besoin d'avoir une telle espérance et à notre époque. Alors, nous sommes là dans 1 Corinthiens, non, qu'est-ce que je vous ai dit ? Épître aux Romains, pardon, chapitre 8 et le verset 12e, et nous lisons ceci. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » La chair, dans la Bible, c'est l'homme qui n'est pas régénéré, qui vit selon ses pensées, ses convoitises, c'est ça. Quelqu'un de charnel. C'est le contraire de quelqu'un qui est spirituel et qui n'est pas conduit par l'esprit. Vous voyez ? Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car, et retenez bien cela, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire de esclavage, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ça signifie qu'on n'a pas toujours été enfant de Dieu, mais on l'est devenu. Autrefois, on connaissait Dieu peut-être d'une manière qui nous faisait peur. Parce qu'on nous disait « Le bon Dieu, tu vas voir, le jour où il va t'attraper, tu passeras un mauvais quart d'heure. » Un esprit de servitude. Et j'ai peur. Voyez, mais ce n'est pas ça qu'on a découvert. On a découvert un Dieu d'amour. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu agit. Il nous dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. On a été adoptés, on est des enfants de Dieu. Alléluia. Et par lequel nous crions, Abba, Père. Abba même, c'est un mot araméen qui exprime une tendresse. Il dit, qui veut dire papa. Vous voyez, c'est ça. Voilà ce que le Saint-Esprit, dans ton cœur, te fait dire. Ton Dieu, c'est ton Père, mais un amour intime. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à ce qui est vide, ce qui n'a pas de sens, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Bon, ce sont des paroles extraordinaires et on va s'attarder sur ce qui nous est dit concernant l'espérance. Vous avez remarqué que le mot revient notamment au verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés, et d'autres passages encore. L'espérance, c'est quelque chose d'important. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 13, il nous est dit qu'il y a trois valeurs qui permettent de déterminer la bonne santé spirituelle d'un croyant. C'est la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un jour nous ne serons plus dans l'espérance parce que nous serons dans la présence du Seigneur. Donc, il n'y aura plus besoin d'espérer quoi que ce soit. Il n'y aura plus besoin de combattre par la foi parce que nous serons avec le Seigneur. Donc, l'amour est au-dessus de tout. Mais on n'est pas encore dans le ciel. Et il y a donc ces trois vertus, ces trois points là qui sont là, la foi, l'espérance et l'amour, qui nous permettent de contrôler si on a une bonne santé spirituelle. Voyez. Alors, si vous voulez encore en savoir davantage, vous allez dans la première épître aux Thessaloniciens et vous verrez que Paul parle de la foi, de l'espérance et de l'amour au chapitre 1er. Mais on va se poser une question au juste, avant qu'on aille plus loin. C'est bien qu'on puisse se dire, mais c'est quoi l'espérance? Qu'est-ce que c'est l'espérance? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que l'espérance? Je vous fais travailler, hein. Gloire à Dieu. Amen. Bon, alors David. L'espérance. Alors David, il regarde sa Bible attentivement. On sent le bon élève, là, qui est concentré, il est là. Voilà. D'autres qui sont comme ça. On sent que ça travaille. Voilà. Ah, vous voyez, une espérance vivante. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Alors d'abord, qu'est-ce que ce n'est pas l'espérance? Eh bien, parfois, on peut trouver une définition en disant ce que c'est pas, ce que cela n'est pas. Je vous trouble encore plus. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Le désespoir, oui. Désespoir, oui. Alors, pardon? Une certitude? Ah! Alors, c'est bien. Parce que, définition de l'espérance, je vous la donne? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, hein, c'est différent d'une notion d'incertitude. Une espérance, formule de politesse, j'espère que vous allez bien. Mais je ne sais pas. Mais je l'espère quand même, que je vous aime. Mais il se peut que vous n'alliez pas bien pour telle ou telle raison. Mais l'espérance, ce n'est pas ça. L'espérance, c'est quelque chose de sûr, de certain, mais qui ne s'est pas encore réalisé. Vous voyez ? Quelque chose que Dieu, dont Dieu a dit, cela arrivera, mais ce n'est pas encore arrivé. Vous voyez ? Donc, puisque Dieu le dit, c'est clair et net, ces choses se produiront, mais comme elles ne se sont pas encore produites, je suis et je vis dans l'espérance qu'elles vont se réaliser. Mais ça ne veut pas dire que peut-être ça se réalisera, peut-être ça ne se réalisera pas. Non, c'est sûr, ça va se réaliser. Et dans l'Écriture, eh bien, il y a un homme qui est porteur qui est un type de l'homme qui a une espérance. Vous connaissez tous Abraham. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul en parle, et vous pouvez trouver ça, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, verset 18, il nous est dit « Espérant contre toute espérance, il crut, il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Alors là, il nous est parlé de... Vous avez remarqué, foi, espérance, amour, ce sont des notions qui sont très voisines et qui sont interdépendantes. Mais il nous est dit ici bien qu'il avait une promesse. Humainement parlant, c'était impossible que celle-ci se réalise puisque son épouse était stérile et en plus, ils étaient très âgés pour avoir un enfant. Mais néanmoins, il crut dans ce qui lui avait été annoncé. Et c'est ça, un homme, une femme qui est rempli d'espérance, ça signifie ceci, mais je crois que Dieu m'a donné un avenir. L'espérance, c'est l'avenir que Dieu te donne. Alléluia. Et je voudrais vraiment... Eh bien que chacun à notre niveau, dans nos vies personnelles, comme dans le plan de Dieu en général pour nos vies, alléluia, nous soyons des hommes et des femmes qui ont une assurance certaine. Oui, nous sommes dans un monde compliqué. Oui, c'est difficile à tout niveau, économiquement, au niveau des guerres, au niveau des pandémies, au niveau de toutes sortes de choses. Oui, c'est compliqué, mais Dieu a quand même un plan, alléluia. Il y a quand même un avenir pour ta vie, alléluia. Et pourquoi nous pouvons le dire? Parce que notre espérance est fondée sur la personne de Jésus, amen. Il y a un texte fondamental qu'il faut que vous gardiez, et peut-être va-t-il apparaître à l'écran, C'est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er et au verset 27, il est dit ceci, « Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. » Alléluia. Pourquoi Christ? Pourquoi Jésus? Mais parce que c'est Jésus qui permet l'espérance. Voilà. Et pourquoi? Qui permet qu'on ait un avenir. Pourquoi? Parce qu'à la croix du calvaire, Jésus, ça a été dit, je l'ai entendu ce matin, vous avez élevé le nom de Jésus, de celui qui a brisé le pouvoir du péché, de celui qui a détruit les œuvres du diable, alléluia, de celui qui est ressuscité d'entre les morts, alléluia. C'est-à-dire, tout ce qui nous interdisait d'avoir un avenir construit, d'avoir un futur, le Seigneur, eh bien, l'a anéanti, alléluia. Si le Seigneur ne m'avait pas délivré de mes péchés, je n'aurais jamais pu me marier. Si le Seigneur ne m'avait pas délivré des pièges et des liens de la drogue, jamais j'aurais pu construire eh bien, un avenir par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais heureusement, Jésus est venu dans ma vie. Alléluia. Et il a brisé les liens du péché. Amen. Il a brisé les liens du diable. Et il m'a donné un avenir. Alléluia. Oh, vous êtes heureux. Alléluia. D'appartenir au Seigneur. Mais c'est grandiose ça. Alléluia. Et non seulement cela, mais encore pour l'éternité, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de la majesté divine, il intercède pour moi, tout cela pour que je sois avec lui et toi aussi, mon frère, ma sœur, dans la gloire. Alléluia, amen. Et Christ en nous, eh bien, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Et nous voulons eh bien, saisir eh bien, ces choses dans notre cœur et les garder parce que eh bien, c'est ce qui fait réellement la caractéristique d'un enfant de Dieu. Il sait que quoi qu'il arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a une espérance, il y a un avenir. Et c'est pour cela qu'on découvre dans l'Écriture des choses qui nous étonnent. Tu peux être devant une mer rouge, complètement fermée, et derrière toi une armée d'Égyptiens. Tu dis, mais il y a quand même une espérance et un avenir. Je ne sais pas comment. Mais Dieu va nous sortir de là. Vous connaissez la suite, la mer rouge qui s'ouvre et le peuple qui passe au milieu. Vous le savez ça, vous l'avez lu. Alléluia, alléluia. Tu peux te trouver eh bien, devant un ordre qui commande de détruire tout ton peuple. C'est dans le livre d'Esther, vous vous souvenez cela? Lorsqu'avec cet homme, le premier ministre du roi là, de Ninive, il veut détruire eh bien, le peuple d'Israël. Ça ne date pas d'hier hein, qu'on a voulu exterminer Israël, parce que ce peuple-là a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Et nous voyons que malgré tout, malgré cet ordre qui est là, mais Dieu va poser sa main, alléluia. Il y a encore une espérance, amen, alléluia. Oui ou non? Mais merci Seigneur, et même que lorsque c'est la tempête la plus noire, mais Seigneur, tu t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr, il y a encore une espérance au cœur de la nuit, au cœur de la tempête. Silence, tais-toi, la tempête se calme et le bateau arrive à bon port. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce que notre espérance est fondée sur celui qui dit et la chose arrive, elle n'est pas fondée sur nous-mêmes, elle n'est pas fondée sur ce que nous sommes capables de penser, d'éprouver ou je ne sais quoi, mais c'est fondé sur la personne de Jésus. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un, je l'ai marqué, je lis mes notes. Est-ce que tu penses toujours comme autrefois que les promesses de Dieu sont certaines? Est-ce que tu marches avec le Seigneur tout simplement parce que ben, il est le chemin, la vérité et la vie? Non seulement intellectuellement, mais aussi dans le parcours de ta vie, tu dis, je ne peux pas marcher sans Jésus, parce que c'est lui le seul sauveur. Mais il y a quelque chose comme de peut-être brisé par rapport au fait de construire ton avenir. Tu crois que Jésus est là, qu'il te tient, qu'il te console, qu'il te soutient, mais tu penses peut-être d'une certaine manière, est-ce qu'il peut encore m'arriver quelque chose de bon? Est-ce que j'ai encore un avenir? Ou est-ce que mon avenir, excusez-moi, c'est de rester assis sur une chaise, de venir le dimanche matin, et c'est ça ma vie chrétienne. Est-ce que ça s'arrête là? Et parfois, il peut y avoir des situations, et on va le voir dans un instant, des situations qui ont pu provoquer un état dans lequel, tout en croyant dans la personne du Seigneur, tout en croyant en Jésus, on a perdu, j'allais dire, cette étincelle, de dire, mais je crois que j'ai un avenir avec le Seigneur. Et je voudrais vous dire, c'est mon deuxième point, on a besoin d'espérance. On a besoin d'espérer. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il est cité trois domaines dans lesquels, vous avez remarqué, il y a des soupirs. Il nous est parlé dans Romains 8, 22 que la création soupire. Dans Romains 8, 23, nous soupirons. Et dans Romains 8, 26, l'esprit soupire. Vous voyez ? Trois sortes de soupirs. Alors ces soupirs, lorsqu'on on les définit un peu plus précisément, s'ils sont en lien direct avec l'enfantement. D'ailleurs, à un moment, eh bien, cela est dit, ça parle du désir de voir quelque chose venir, arriver. Oui, la création voit, dans la création, il y a le mal est entré, le diable a soumis toutes choses, eh bien, à des choses vaines et futiles qui nous éloignent de Dieu, mais il nous est dit que dans la création, il y a comme un soupir de voir quelque chose de meilleur. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que nous qui sommes eh bien, des enfants de Dieu, nous aussi, nous ne soupirons pas après quelque chose de meilleur ? Alléluia ! Disant, mais il y a quelque chose de meilleur qui peut arriver avec le Seigneur. Alléluia ! Amen ! Et l'Esprit de Dieu, eh bien, qui est en nous, soupire. Il nous fait même pousser un soupir pour te dire, mais eh bien, il faut que tu places ta foi dans le Seigneur parce que quelque chose de meilleur, oui, bien sûr. Eh bien, nous avons une espérance vivante. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4, eh bien, nous parle de cette espérance-là, de cette espérance vivante. Un jour, nous serons avec le Seigneur eh bien, dans son ciel de gloire. Mais je voudrais vous dire que, eh bien, dès à présent, quelque chose de meilleur eh bien, est mis en place par le Seigneur pour que nous puissions y entrer. Alléluia. Et si dans ton cœur, la vision de ton futur, la vision de ton avenir n'est plus claire ou est indéfinie, ou elle devient complètement trouble en te disant « Advienne que pourra », je ne veux pas être juge ce matin, mais juste comme un docteur mettre un nom sur un symptôme, ton âme, elle ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que, je le répète, un enfant de Dieu, il espère toujours. Il croit toujours que Jésus, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Abraham. Je voudrais vous parler de Sarah. C'était l'épouse d'Abraham. Et l'épouse d'Abraham, eh bien, on va le lire, cela. Ça se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 18. Cette dame, eh bien, elle croyait en Dieu, mais au niveau de son espérance, au niveau de son avenir, eh bien, elle était dans une forme de désillusion. Regardez, nous lisons au chapitre 18 et au verset 9. Je passe certains détails. Dieu parle à Sarah. Il y a des anges qui sont là. Ils ont une apparence humaine. Et au verset 9, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme ? Elle répondit, elle est là, dans l'attente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Alors, on ne veut pas jeter, bien entendu, la pierre à Sarah, mais elle illustre fort bien ceci, c'est que même au milieu des rires, il peut y avoir un cœur brisé. On peut cacher ce rire, ce n'est pas un rire de joie, vous l'avez compris. Hein. C'est un rire à la fois d'incrédulité, c'est un rire... Vous savez, quelqu'un dit, vaut mieux en rire de peur d'en pleurer. Vous voyez ? Et ce qu'il y a dans le cœur de Sarah, de cette dame, c'est que, eh bien, elle croit dans le Seigneur. Je suis persuadé que elle croit en Dieu, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et dans leur chemin avec Abraham, il y a eu des belles choses, il y a eu aussi des choses un petit peu plus compliquées. Vous vous souvenez, il y a eu la naissance d'Ismaël. Bon, mais c'est bon pour Abraham et pour la postérité, on a un fils. Ben, nous avons fait comme on a voulu, mais bon, les choses ne se sont pas bien passées en réalité. Ils ont voulu un petit peu accélérer eux-mêmes le plan de Dieu. Vous savez, parfois on a des promesses et on veut tellement les voir voir s'accomplir que hop, on prend la place de Dieu. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Ben, chérie, tu peux pas avoir d'enfant. Et ben, on va adopter un enfant. Et pour que vraiment ce soit notre enfant et qu'il vienne de moi quand même, et ben voilà, il y a Agar et Ismaël est né. Bon, c'était pas du tout la bonne façon de faire. Et peut-être elle s'est retrouvée dans cette situation. Ben, maintenant, on a Ismaël, il faut faire avec. Et en plus, Abraham a l'air content parce qu'il dit qu'Ismaël vive devant ma face. Sauf que ça, c'est pas le plan de Dieu. Et quand Dieu lui dit l'année prochaine à cette même époque, Sarah aura un fils, elle rit. C'est un rire d'incrédulité. Peut-être quelqu'un rit comme ça. Et peut-être que ce rire, c'est une forme de rébellion. Et je voudrais te dire, arrête ta rébellion. Parce que le Seigneur t'aime. Et Dieu veut encore réaliser ses plans pour toi parce qu'il a encore des projets à réaliser dans ta vie. Jérémie 29, 11. Des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Alléluia. Et nous avons besoin eh bien, d'être consolés. Il y a quelque temps en arrière, j'ai pu entendre, peut-être l'avez-vous entendu, l'enseignement d'un frère qui s'appelle Alton Garrison, qui est, il a des titres au niveau des assemblées de Dieu US à n'en plus finir. Et il nous a parlé de l'expérience de sa mère. Nous étions au séminaire pastoral. Et son papa, qui était pasteur, est décédé de la maladie d'Alzheimer. Et les médecins étaient inquiets plus pour la maman que pour le papa, parce qu'elle disait la maladie d'Alzheimer, ça fait deux victimes. Ça fait la victime qui est malade et l'autre qui assiste. Et effectivement, alors qu'il est allé visiter son père, qui depuis 3 mois ne parlait plus et il y a eu une dégénérescence, il a vu sa mère se mettre en colère et exploser. Et elle, qui était femme de pasteur, investie dans le service de Dieu, pointait le doigt sur lui en lui disant ceci, « Ne prie plus jamais en ma présence. » Et il s'est mis à pleurer dans la voiture en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et le Saint-Esprit l'a amené à comprendre quelque chose. En réalité, ce n'est pas la foi qu'elle a perdue, c'est l'espérance. Elle n'avait pas perdu la foi, elle ne pouvait pas nier tout ce que Dieu avait fait dans sa vie, tout ce que Jésus avait fait dans leur vie. Mais maintenant qu'elle se trouvait dans une situation où elle avait assister son mari, voir son état complètement se dégrader, prier pour lui et le voir, et bien terminer ses jours, et bien de cette façon-là, elle était complètement anéantie et son espérance et bien était perdue. Il va y avoir un miracle dans cette situation parce qu'à un moment où elle ne s'y attendait pas, lui, d'une manière surnaturelle, va se réveiller et va lui parler en lui parlant de Jésus. Lui qui n'avait pas parlé depuis 3 mois, il se réveille. Et il lui dit, mais Dieu répond aux prières. Voilà. Et il se rendormira une dernière fois, il partira dans la gloire. Et son espérance a été renouvelée. Alléluia! Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, c'est important de retrouver cette espérance. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette espérance qui n'y est là dans notre cœur, mais on ne serait pas en train d'être sur le stand biblique dans un quartier musulman pour distribuer des Bibles. Et peut-être certains diraient, c'est une folie de faire ça. J'en connais au moins 2 dans cette salle qui, à cause du stand biblique et des bibles que nous avons distribués dans un marché musulman, sont là et se sont fait baptiser. Alléluia, amen. C'est-à-dire que dans un quartier comme ça, il y a de l'espérance parce que Jésus agit encore. Alléluia, amen. Bien sûr, et je voudrais même vous dire en tant que serviteur de Dieu, je ne veux pas perdre cette espérance. Quand on est dans des situations où on assiste des malades, des gens, qui, et des frères, des sœurs. Et on sent que ça peut être la fin. Je dis, Seigneur, écoute, ça, c'est toi qui le sais, Seigneur. Ça, tu sais si tu vas mettre le point final. Enfin, quoi qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de point final. Hein. C'est la vie éternelle. Alléluia. Mais moi, Seigneur, je lis dans ta parole que tu es celui qui guérit les malades. Alors, Seigneur, toi, Seigneur, tu fais comme tu veux et gloire à toi si tu choisis le meilleur. Mais moi, Seigneur, je vais continuer de prier pour la guérison. Alléluia. Parce que je sais que tu es capable de guérir encore et encore et encore. Alléluia. Et tu l'as déjà fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, mon frère, ma sœur, ne perds pas cette espérance. Tout est possible à celui qui croit parce que Jésus est là. Et c'est le thème de ce chapitre. Romains 8, verset 24. Je retrouve la page de ma Bible, mais vous l'avez. Est-ce que tu peux l'afficher sur l'écran ? Romains 8, verset 24 nous dit « C'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et il nous est dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Et je voudrais vous dire que pour que nous puissions garder cette espérance et croire que Dieu nous donne un avenir, l'Esprit de Dieu agit. Ce matin, je pensais, pas ce matin, dans la semaine, mais le Saint-Esprit, mais c'est Dieu vécu de l'intérieur. C'est de l'intérieur. On voit Dieu agir de l'intérieur. Certains ont un regard extérieur, voilà ce qui s'est passé historiquement, etc. Mais quand le Saint-Esprit agit dans ton cœur, tu vois les motivations, tu vois l'amour, tu vois la patience, et ça produit du fruit en toi, le fruit de l'Esprit, l'amour, etc. Mais tu vois Dieu de l'intérieur. Et l'Écriture nous dit, on l'a lu tout à l'heure, et on a eu un don spirituel à ce sujet-là, lorsqu'il nous a été rappelé de ne pas mettre notre confiance dans nos émotions ou dans nos impressions. Et dans Romains 8, 14, il est dit ceci, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et ce matin, je voudrais que vous puissiez laisser le Saint-Esprit vous conduire lui-même. Que ce ne soit pas vos émotions, que ce ne soit pas vos impressions, mais que ce soit quelque chose de surnaturel, de divin, de transcendant qui vienne d'en haut jusque dans nos cœurs, le Saint-Esprit qui agit. Amen. Et la Bible nous dit ceci, eh bien que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Eh bien, pourquoi il le fait ? Mais parce que c'est vrai. C'est l'Esprit de vérité. Tu es né de nouveau. Et vous allez voir, il y a une logique. Il y a une logique qui est imparable pour que tu gardes de l'espérance. Un, d'accord, Seigneur, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Tu m'as rappelé également Romains 8, 1, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, c'est-à-dire, je suis libéré de mon passé. Romains 8, 14, c'est le Saint-Esprit qui me conduit, ce n'est pas mes émotions, ce n'est pas mes impressions, et je veux apprendre à vivre dans cette réalité. Dieu est mon Père, alléluia. Et pour arriver à cette conclusion de Romains 8, 17, si donc l'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, verset 16, mais le verset 17 nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ça veut dire qu'on a un héritage. Et cet héritage, c'est l'avenir que Dieu nous donne. Peut-être que vous êtes, vous ne le savez pas, peut-être que vous avez un oncle en Amérique, un milliardaire texan qui a fait fortune dans le pétrole. J.R. Ewing. Et bientôt, vous allez toucher l'héritage. Mais là, dites donc. Ça. Et voilà. Mais là, je vois que ça vous stimule d'avoir un héritage. Hein. Eh bien, le but du Saint-Esprit, c'est de dire ça. Tu es un enfant de Dieu. Mais attends, ça ne veut pas simplement dire que Dieu t'aime. Ça ne veut pas dire que Dieu est tout-puissant pour t'arracher au piège de l'ennemi et avoir fait de toi ce que tu es. Ça veut dire qu'il y a un projet. Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un héritier. Mais maintenant, puisque tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier. Il y a des choses que tu dois vivre. En me grattant la tête et en réfléchissant, je me suis dit, mais Seigneur, où est-ce qu'on le voit ça ailleurs dans la parole ? Parce que vous savez, quand on lit la Bible, il faut quand même avoir une façon de lire les Écritures. La Bible explique la Bible. Vous ne pouvez pas partir touchous avec touchous, vous savez ce que ça veut dire ? Les Hauts-Savoyards comprennent, mais les gens de... C'est le ski, ça veut dire on descend tout droit, voilà. Et donc, de foncer tout droit sur une seule déclaration de l'Écriture. Il faut que cette déclaration soit confirmée. Et j'ai trouvé dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, vous savez, quand Dieu parle à Moïse et lui explique son plan de salut pour le peuple d'Israël qui est encore en esclavage. Et au chapitre 3, dans le livre de l'Exode, les pages ne sont pas encore bien faites, 3-7, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Et il nous est dit, verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les pays qu'habitent, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, etc. Et nous lisons ici, donc je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement dans le salut que Dieu donne, eh bien, la libération de l'Égypte, mais il y a également l'avenir que Dieu veut donner. Je reviens sur ce qu'on a dit auparavant. Même si tu te trouves en face de la mer Rouge, Dieu a quand même un plan. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans sa déclaration à Moïse, Dieu dit, je vais le délivrer, je vais le sauver de la main des Égyptiens, mais je veux le faire entrer également dans ce pays promis. Et peut-être quelqu'un se dit, ouais, mais ça, je le sais, ça. Je le sais. Et dire, pasteur, vous ne m'apprenez rien de nouveau. Sauf que moi, ces choses-là, je ne les vis pas. Et comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de mariage. Si le Seigneur ne m'avait pas libéré de mes péchés, c'est clair que je n'aurais jamais pu entrer dans le plan que Dieu avait formé pour ma vie. Mais entre, mais je vous assure que j'étais jeune, célibataire, je suis resté assez longtemps comme ça. Je suis toujours jeune, hein. Mais j'avais des amis qui étaient voilà, qui faisaient leur vie, des collègues de travail, et qui regardaient sur moi, jetaient sur moi un regard bizarre, même dans ma propre famille. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais comment ça se fait, Seigneur ? Il y a des promesses. Comment ça se fait que ça n'arrive pas ? Et vous pouvez appliquer ça à plein de choses dans votre vie. Il y a un principe. Il y a un principe dans la Bible qui s'appelle le principe de résurrection. Jean, chapitre 11, je vous donne pas mal de refs. Hein. Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et je termine là. « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et on s'aperçoit que dans le texte là, Jésus intervient, il va ressusciter Lazare, vous vous souvenez tous de l'histoire ? Lazare est mort, et quand on lui apprend la nouvelle de sa maladie, Jésus, au lieu de venir, reste 2 jours supplémentaires dans le lieu où il était, et il attend qu'il soit mort pour venir le ressusciter. Et je me mets... Alors, nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que, que Lazare va ressusciter et que Jésus va intervenir. Mais moi, je me mets à la place de Marthe, de Marie, les 2 sœurs. Seigneur, si tu avais été là, quand même, il serait ressuscité. Voilà. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais enfin, on est encore toujours sur la terre, il n'était pas venu. Et il y en a une autre qui n'a même pas la force de parler et qui ne fait que pleurer, c'est Marie. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont fait les funérailles, ils ont mis le sépulcre, ils ont creusé, voilà, le sépulcre a été choisi, la pierre a été roulée devant, etc. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'un principe de résurrection qui est à la base de notre espérance. C'est parce que Jésus est ressuscité qu'il nous donne une espérance. Et ce principe, c'est le suivant. C'est que le Seigneur attend que, dans ce cas-là, la maladie soit bien passée, que le diable ait fait vraiment tout son travail de sape, qu'il soit bien mort, mais vraiment mort, de telle sorte qu'on dira, mais si on enlève la pierre, on va sentir l'odeur de son corps qui est en train de pourrir. C'est ça où on en est. Il attend tout cela, lui, pour manifester sa puissance et dire, Lazare, sors. Et vous savez ce qui va se passer ? Lazare, il va sortir, et pas dans un corps en décomposition, mais dans un corps en bonne santé. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur attend que l'ennemi, que les événements aient atteint le maximum de leurs possibilités pour que lui puisse dire, ça y est, vous êtes arrivé au bout, maintenant, c'est mon plan qui va se mettre en marche. Malgré toutes les oppositions, c'est Jésus qui a le dernier mot. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je voudrais te dire ceci, eh bien, il faut rentrer dans ce processus-là. L'apôtre Paul dira, nous sommes héritiers, co-héritiers, si toutefois nous souffrons avec lui. Qu'est-ce qu'elles ont amené les souffrances du Seigneur ? Le frère l'a répété tout à l'heure, mais sa mort, il est mort. Seigneur, je ne compte plus sur moi-même. Je reviens à simplement ma situation très, très personnelle lorsque j'étais en attente de me marier, disant, mais Seigneur, et je me souviens bien ce moment où je suis mort à moi-même, où j'ai dit, Seigneur, écoute, je sais que tu m'as sorti de mes péchés, je ne la vois pas, je ne vais pas faire toutes les réunions de jeûne pour regarder. En plus, ça serait vraiment se servir des réunions de jeûne pour quelque chose qui n'est pas spirituel. Donc, Seigneur, si tu veux, c'est toi. C'est toi qui conduis les choses. Si je l'ai vu passer, que je n'ai pas fait attention, ben, je te demande pardon, Seigneur, mais moi, quand même, malgré tout, je veux continuer de marcher avec toi. Amen. Je suis mort à moi-même. Mais quelques semaines plus tard, je recevais un courrier, et puis la suite, voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Non, mais... Tout cela pour dire quoi ? C'est qu'il y a ce principe de résurrection. Et je voudrais dire à un frère et une sœur, ce matin, eh bien, cesse de réfléchir sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, sur tes manquements. Souviens-toi de ce que Dieu a dit à Sarah. Dieu aurait pu lui dire, oui, mais Sarah, tu es dans cette situation-là, parce qu'avec ton mari, il y a eu l'histoire d'Agar, d'Ismaël, etc. C'est bien que vous galériez un petit peu, etc. Dieu ne lui fait aucun reproche. Dieu aime Sarah. Il veut voir son plan s'accomplir. Il lui dit, eh bien, quand je reviendrai dans un an, Sarah aura un fils. Et c'est ce qui va s'accomplir. Et vous savez ce que ça veut dire, Isaac ? C'est le fils qu'Isaac. C'est-à-dire, il rit, mais pas d'un mauvais rire cynique, etc. Mais d'un rire de joie, de contentement. Dieu m'a répondu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je termine complètement. Parce qu'on a parlé d'héritage. Alors, un héritage, juste pour ce à quoi tu dois t'attendre. Lorsque Dieu a appelé Israël à entrer dans le pays promis, cet héritage, eh bien, il y avait trois caractéristiques qui concernaient le pays de Canaan, le pays dans lequel ils allaient, ce pays découlant de lait et de miel. Deutéronome 8,7 nous dit que c'était un pays de sources d'eau. Dans Josué 1,15, il nous est parlé d'un pays où on trouvait le repos. Et dans Josué 1,5, d'un pays de victoire. Et bien sûr, il y a le ciel de gloire où le Seigneur t'attend, ça c'est sûr. Mais dès ici-bas sur cette terre, il y a un pays eh bien, qui est une vie nouvelle avec laquelle, dans laquelle tu dois entrer, une vie qui est conduite par l'Esprit, une vie de source d'eau. Et je voudrais m'appuyer, on va terminer en lisant simplement ces quelques textes. Voilà ce en quoi tu dois espérer. Voilà ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie. Voilà ce qui va arriver. Amen. Regardez, il nous est dit ceci dans Romains au chapitre 8 et au verset 26, il nous est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, c'est-à-dire que le Saint-Esprit sera toujours là, alléluia, quelle que soit la situation dans laquelle que tu traverseras, mais demain, peut-être, tu te poses des questions. Comment je vais réagir par rapport à cette circonstance au travail, etc. J'ai lu quelque part quand même que le Saint-Esprit nous donnera une sagesse à laquelle ne pourront résister nos contradicteurs. L'Esprit t'aidera dans la faiblesse. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 toujours, et au verset 34, il est dit, eh bien, qui condamnera les élus de Dieu ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un pays de repos, un pays où je peux m'appuyer sur Dieu. Alléluia ! Une vie dans laquelle le Seigneur est là. Alléluia ! Puis je termine en disant simplement ceci. Eh bien, c'est un pays de victoire. Romains 8, 37, mais ça, vous le connaissez par cœur. Est-ce qu'on pourrait le lire tous ensemble ? Vous voulez bien qu'on le lise tous ensemble ? Tu peux afficher 8, 37 et puis la suite, là. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra, c'est le futur, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voulez qu'on dise, Seigneur, je veux retrouver l'espérance. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, merci encore pour ces quelques moments que nous avons passés, Seigneur, sous ton regard. Tu vois, Seigneur, bien maladroitement, Seigneur, nous avons pu, Seigneur, considérer ces choses. Mais Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Nous voulons la garder dans notre cœur. Et merci pour cet avenir que tu nous as donné. Seigneur, un avenir, mon Dieu éternel, nous serons avec toi dans le ciel. Mais ici-bas, sur cette terre, tu nous dis que, eh bien, il y a encore des choses qui doivent s'accomplir. Seigneur, mon Dieu, même si, humainement parlant, on ne comprend pas pourquoi, Seigneur, on doit passer par, Seigneur, parfois des souffrances qui sont là. Mais il y a ce principe de la résurrection. Et Seigneur, mon Dieu, tu nous le fais comprendre. Mais en attendant que ces choses s'accomplissent, tu nous dis que le Saint-Esprit est là. Tu nous dis que tu es notre appui. Tu nous dis, Seigneur, que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Alors, Seigneur, je te prie, afin que ce matin, Seigneur, le frère, la sœur qui était blessé, Seigneur, retrouve cette espérance vivante en toi, en disant, oui, il y a un avenir pour ma vie. Oui, il y a un avenir pour ma vie. Il y a quelqu'un qui ressemble ce matin comme à Jacob. Un homme de Dieu qui avait fait cette expérience avec le Seigneur. Il était devenu un nouvel homme. Mais son fils Joseph, il pensait qu'il était mort alors qu'il était bien vivant. Et son cœur est demeuré froid. Et il y a quelqu'un dont le cœur est froid. Tu crois, tu sais ce qui s'est passé, mais ton cœur est froid. Et le Saint-Esprit, au travers de ces moments, t'as communiqué les raisons pour lesquelles tu dois cesser de vivre dans cet état spirituel. Parce que Joseph a vu les trésors de son fils amenés par ses enfants. Et il a pu s'écrier, c'est assez, Joseph est vivant et je le verrai. Que tu puisses dire ce matin, c'est assez de ces sombres pensées. C'est assez. Je veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Quelques secondes sous le regard du Seigneur. Prends cette position. Position de foi. Humblement, on est à nos places et c'est intime, c'est personnel. Il y a des mauvaises révoltes, mais il y a des bonnes révoltes. Je veux voir la gloire de Dieu. Dans ma famille, moi-même, dans ton travail, je ne sais. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces quelques moments et je te prie afin que chacun d'entre nous, Seigneur, on garde tout cela précieusement dans notre cœur. C'est ta parole, Seigneur. C'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Seigneur, nous te remercions, nous te disons merci à toi, toute la gloire. Merci de conduire la suite de cette journée, Seigneur, pour les frères, pour les sœurs, pour l'Église. Seigneur, dans tout ce qui doit être fait, que ton nom soit béni, Jésus. Amen.